Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie,
c'est parti
pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à tout le monde, bienvenue pour l'Instant Sport, une deuxième émission pour décrypter l'actualité sportive lausérienne, nationale et internationale. Alors nos chroniqueurs autour de cette table, tout d'abord de l'Avenir Foot Lausère, monsieur Laurent Julien, bonjour.
Bonjour à toutes.
Et à tous également, journaliste sportif à la Lausère Nouvelle, Patrick Biancone. Salut Patrick.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Journaliste sportif à Midi Libre et coach des féminines du basket cosmondois qui ont gagné ce week-end, Luc Respon, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et on va s'intéresser aujourd'hui à un sport que tout le monde connaît, mais qui est peu mis en lumière, le badminton, avec notre invité aujourd'hui, Sylvain Tichit, le président du Badminton Club Mandois. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, j'ai pas trop monté le micro, on va le monter, voilà, ça sera mieux. Alors, avant cela, avant de passer au tournoi qui s'est tenu ce week-end et parler du badminton de manière globale, on va s'intéresser aux résultats sportifs du week-end. On va commencer par le handball en National 3, avec Mande qui n'y arrive toujours pas. Et qui s'incline à Cournon, 38 à 28. Mande qui est actuellement 9e sur 12 avec 6 points. Une victoire, 3 défaites en 4 matchs. Cournon qui est 4e, lui, avec 10 points. On en parlait la semaine dernière, un dur apprentissage. Je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole, Patrick.
Oui, c'est vrai qu'on en a parlé lundi dernier. Et bon, 3e déplacement, 3e défaite. Bon, surtout, c'est l'écart qui est un peu grand parce que 10 buts au hand, ça commence à faire. Alors en première mi-temps, le match était encore ouvert puisqu'il n'y avait qu'un but en défaveur des Mandois. Et puis bon voilà, une deuxième mi-temps un peu catastrophe. Alors 3 défaites à l'extérieur certes, mais contre les 3 premières équipes au classement, Villeurbanne, Bourgoin et Cournon, qui occupent pour le moment les 3 premières places. Bon voilà, je crois qu'il y a un week-end de repos la semaine prochaine, et donc un derby contre Saint-Flour dans 15 jours. Donc le samedi soir, le 7, donc bien sûr, il faudra une victoire impérative pour les Mandois. Bon, ouais, un début de saison quand même un peu en demi-teinte, il faut reconnaître.
J'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour eux, en deuxième mi-temps, parce que c'était à peu près pareil le match contre Villeurbanne où ils se tenaient à la mi-temps, et c'est vrai que c'est en deuxième mi-temps qu'ils lâchent un peu. Alors, est-ce que c'est physiquement, ils ont du mal à suivre? Après le groupe, il est pas, il y a 2-3 nouveaux joueurs, mais c'est quand même dans la globalité le groupe de l'année dernière, donc on peut pas dire que ce soit un problème d'intégration des nouveaux joueurs. C'est vrai que je pense que c'est pas le début de saison qu'avait prévu le coach.
Après donc une défaite contre les trois qui sont quasiment premiers, donc il y a motif
d'espoir.
Contre les trois premiers. Après je pense que c'est mis à part peut-être Bourgoin qui fait partie des équipes qui ont joué la montée l'année dernière. Je pense que Villeurbanne et Cournon c'était quand même à leur portée.
Du coup, il faut aller les encourager donc dans 15 jours contre
Saint-Flour pour le derby.
Aller faire du bruit donc à la Vernède.
C'est ça.
Voilà, et donc peut-être que la semaine prochaine, on essaiera d'avoir un invité du handball pour nous parler un peu de ce début de saison. On va attendre peut-être qu'il se refasse. Sylvain, tu suis le handball, tu suis d'autres sports en Lausanne?
Oui, je suis d'autres sports, mais c'est vrai que les résultats de ce week-end, on a été très pris par notre tournoi. J'ai pas tout bien pu suivre tout ce qui s'est passé.
Ouais, on reviendra sur ce tournoi. 200 personnes, c'est
200,
ça
200 inscrits. 200 compétiteurs.
Ouais, c'est énorme.
Ouais.
Avec une belle finale en double non classé, on en parlera également tout à l'heure.
Une finale qui a laissé des traces apparemment.
Ouais, qui a laissé des traces
sur le corps des athlètes.
On peut dire ça.
Voilà, également un rectificatif par rapport à la dernière émission. Laurent, un auditeur t'a joint sur une erreur qu'on a commise.
Voilà, donc un auditeur m'a contacté ce week-end. Donc on avait précisé que c'était la première fois que deux équipes jouaient en ligue au niveau senior
En parlant de l'AFL.
Donc petit rectificatif parce que la saison 93-94 l'équipe de Saint-Alban jouait leur équipe 1 en D4 et leur équipe réserve jouait en DHR. Donc merci à Daniel de nous avoir permis de rectifier l'information.
Bon, à ma décharge, bon, j'étais pas né à cette époque-là, c'est pour ça que je pouvais pas m'en souvenir.
Oui, et c'était avant la fusion avec le NL, enfin avec avec Saint-Chély, on avait oublié, mais voilà, c'était bien de rectifier. D'autre part, un petit bonjour, un privé joke à Angélique, marquise des Anges, qui nous écoute. Allez, on poursuit avec après Londres, le rugby.
Tu peux dire bonjour à mes parents ou non, ils n'écoutent pas.
Il y a que moi, c'est mon émission, c'est celle de Laurent aussi, donc Laurent, tu auras le droit de dire un bonjour, mais je sais pas si te reste des personnes à saluer.
Je vais y réfléchir.
Je suis pas sûr. En rugby, le RCML est pour l'instant au top, deux matchs, deux victoires, première place du groupe. Ce week-end, Mande a gagné 38-14 face à Bédarieux avec 5 essais, 2 transformations. Mande a 9 points, première place du groupe. Alors que dire de plus, hein?
Donc, je suis allé au match, enfin, la première mi-temps. Franchement, je me suis régalé. Je vous invite tous à aller voir l'équipe de rugby. Bon, j'ai rencontré un petit problème, c'est que c'était les bleus et jaunes qui jouaient contre les jaunes et bleus.
J'ai vu ça, et c'est super facile.
Donc, si tu veux voir 800 ou 900 kilos de mecs autour d'un ballon, tu sais pas trop qui est avec qui. Mais quand même, il y avait du beau jeu. J'ai vu une équipe de Mende très conquérante et ça a fait plaisir à voir. Je sais pas si cette année il y a eu des recrues par rapport à la saison dernière. Enfin, toujours est-il que
ils ont eu 2-3 recrues. Mais enfin, la quasi-totalité du groupe est similaire à celui de l'année dernière. Ils ont eu un changement, c'est qu'ils ont Olivier Hy, qui était un des deux entraîneurs du groupe l'année dernière, qui est parti, qui a été remplacé par Eddy Nebili, qui est entraîneur-joueur. Le troisième ligne est dit, je crois. Ouais. Après, je pense que la saison dernière leur a peut-être servi de signal d'alarme et que voilà qu'ils ont repris la saison dans d'autres dispositions. Parce qu'après au niveau des effectifs, ils doivent avoir 2-3 joueurs en plus, je crois.
Hein. Oui, et puis d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui étaient blessés quasiment toute la saison dernière, et là ils sont de retour en pleine forme, et je pense que ça change grandement l'équipe, ouais, en particulier le buteur.
Jean-Hugues, notamment, et Jean-Hugues Tichit qui a loupé une grosse partie de la saison. Et effectivement, que ce soit comme buteur ou même comme joueur, c'est quand même un joueur qui est capable de faire la différence. Sur pas mal de points, notamment avec sa pointe de vitesse.
Oui, dans toutes les divisions, c'est important, ce rôle du buteur en rugby, et d'autant plus en milieu amateur.
Ouais, c'est très important, parce que bon, quand ton équipe domine et que tu obtiens des pénalités, si ton buteur les passe, de suite, ça met justement ton paquet d'avant dans de bonnes conditions, et au moins tu concrétises ta domination, et c'est vrai que si ton buteur, ben, il te fait un 20, un 30 ou un 35% seulement de réussite, bon, ben, c'est vrai que ça met un peu un coup derrière la tête à toute l'équipe. Donc, d'où l'importance d'avoir un buteur au rugby, ça a toujours été le cas, mais encore plus, je pense, dans le rugby moderne.
Ouais, c'est un poste primordial. D'ailleurs, c'est généralement les postes, les places les plus recherchées, celles de buteur, c'est une denrée rare.
Mais bon, c'est vrai que c'est fabuleux de voir le RCML, faire un début de saison comme celui-là. Tu as dit 9 points, mais parce que là, hier, ils ont marqué 5 points, puisqu'ils ont eu le bonus offensif. Justement parce qu'ils ont marqué 5 essais et l'équipe adverse que 2. Et donc voilà, ça fait 9 points, 2 victoires, ils sont premiers. Il y a une seule autre équipe qui était vaincue pour le moment. Bon voilà, bon, Bédarieux, certes, c'est pas les favoris de la poule puisqu'ils sont déjà à 3 défaites en 3 matchs. Mais bon, quand même, mettre quasiment 40 points, surtout quand on a connu la saison précédente, bon, c'est génial, quoi.
Mais au-delà du résultat, j'ai quand même vu une équipe, une vraie équipe, une bande de copains, ça rigole, ça joue, et c'est sympa à voir. Il y avait un petit peu de monde dans les tribunes, il faisait beau, c'est sympa.
Voilà, faut le rappeler, pour ceux qui suivent pas le rugby ou qui n'ont pas écouté la dernière émission, l'an dernier, une seule victoire sur tout le championnat, cette année, 2 matchs, 2 victoires. On peut espérer la première place ou c'est un peu prématuré?
On va déjà leur souhaiter de continuer comme ça, la première place. Après, ils partent de très très loin quand on voit la saison dernière. Donc, on va leur souhaiter d'aller le plus loin possible et d'enchaîner les victoires. Après, l'appétit vient en mangeant, donc pourquoi pas.
Parce que ce qu'il faut signaler, c'est si tu montes, tu passes en fédéral 3. Et en fédéral 3, par rapport au championnat honneur, il y a vraiment un écart énorme. Donc là, après, c'est toute une autre philosophie de jeu. D'ailleurs, Mann, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, était monté en fédéral 3.
Ils étaient montés, oui.
Et donc là, tu vis une saison vraiment compliquée. Mais tu peux regarder sur les différentes saisons, tous les promus de ce championnat honneur, ils connaissent vraiment d'énormes difficultés la saison suivante en fédéral 3. C'est compliqué.
Il y a un vrai écart entre Fédéral 3 et Honneur, sachant que beaucoup des équipes qui montent, comme disait Patrick, connaissent des difficultés, sachant que c'est aussi souvent des équipes de l'Hérault ou du Gard et qui ont un vivier de joueurs qui est autre que celui auquel peut prétendre le RCML, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anciens de Nîmes, de Montpellier ou de Béziers, de gens qui ont fait le centre de formation, qui se retrouvent justement à pouvoir jouer dans ces équipes en Fédéral 3. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour Mende, qui doit se contenter de joueurs, soit des joueurs du cru, soit faire venir des joueurs, et là c'est un peu plus compliqué.
Mais bon, c'est vrai que si tu. Quand Alain Bertrand, le maire de Mende, parle de sport, et quand il fait un peu le tour de, justement des sports collectifs, bon, mais il dit que la place du rugby est en Fédéral 3, donc bon, pourquoi pas, espérons-le.
Oui, mais il va falloir embaucher des joueurs pour ça, enfin du moins pour pouvoir y rester. Ok, pour cette page rugby, on passe au football Coupe de France pour la troisième année consécutive. L'AFL se qualifie pour le 7e tour. Alors l'AFL a battu Poussin à l'extérieur 3-0 avec un doublé de Gourma à la 52e, un coup franc direct et à la 65e, suivi d'un but d'Essomba à la 86e sur penalty. Alors le tirage aura lieu mercredi à Paris à 11h. Pourquoi à Paris? Parce que les Ligue 2 rentrent dans cette Coupe de France. Déjà pour commencer, avant de parler de ce match, cette qualification, troisième fois d'affilée, c'est quelque chose d'énorme.
Ouais, c'est un gros truc, mais c'est vrai que l'aventure d'il y a deux saisons a probablement ouvert l'appétit des Mandois. Quand on y a goûté, je pense qu'ils ont envie de continuer. Et c'est bien parce que ça maintient aussi ce groupe, ça montre qu'ils sont compétitifs et ça montre qu'ils ont de l'ambition.
Bon, sur ce match, donc, on a pu constater que malgré que les deux équipes jouent en DH, bon, il y a l'AFL qui a dominé toute la rencontre, a mis du temps pour marquer son premier but, mais a usé l'adversaire et c'est comme ça que c'est passé. Mais il n'y a pas eu photo et donc tout le mérite revient aux joueurs.
Alors Jean-Bernard Reboul, l'entraîneur de Poussin, a dit à la suite de ce match, il y a trois classes d'écart entre les deux équipes, la meilleure équipe a gagné.
Oui, bon, c'est vrai qu'on avait dit que ce serait un match différent par rapport au championnat, mais bon, c'est vrai que Poussin, ils vivent un début quand même hyper compliqué, un championnat 4 matchs, 4 défaites. Bon, ils étaient venus à Mende, ils en ont pris 5. Franchement, pour moi, c'était une qualification que j'attendais. Bon, avec la manière 3-0, voilà, donc je pense que l'entraîneur de Poussin a vraiment raison de dire qu'il n'y a pas photo entre l'AFL et son équipe. Et le score le prouve. Et puis bon, la semaine dernière, Fadil était l'invité de cette émission, donc ça l'a bien boosté, il a marqué deux buts. Donc tu vois, Sylvain, toi, tu es invité cette semaine, donc le week-end prochain, tu vas gagner ton prochain tournoi de BAD, tu vas le gagner, il n'y a pas de problème, c'est signé déjà.
On verra ça à Marvejols dans 10 jours.
Dans 10 jours, Marvejols. Ouais, Luc.
Moi, juste deux mots, parce que c'est un joueur dont on ne parle pas très souvent, et pourtant, depuis qu'il est arrivé... il fait quand même aussi souvent la différence, c'est Alex Essomba. On en parle peut-être un peu moins que les autres attaquants du club, et notamment on parlait de Fadil, mais je pense que c'est un vrai atout. Il est très 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 présent dans le secteur offensif.
Oui, c'est certainement pour ça aussi que Fadil brille, parce que Alex Essomba Mani a un gabarit plutôt pour jouer au volley, au basket. Mais c'est un déménageur, il y a un joueur très technique qui pèse sur les défenses, et puis Fadil qui tourne autour, profite de ses appels. Donc c'est un très bon joueur, en effet, tu as bien fait de le relever.
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la saison dernière, c'est vrai que bon, dans les tribunes, on entendait, bon, il a été critiqué, il faut quand même le dire. On attendait beaucoup de lui parce que bon, quand il est arrivé à Mende, alors oui, il avait failli signer à Lens. Bon, Lens, c'est quand même à l'époque, ils étaient en D2, ils sont montés en Ligue 1 cette année. Donc, on attendait énormément de Somba et de suite. Et c'est vrai qu'il n'a pas répondu immédiatement. Mais là, on voit, je pense, le vrai joueur qu'il est. Et c'est vrai qu'il fait un super début de saison. Et bon, c'est bien pour lui et c'est bien pour le club.
Il est arrivé il y a 2 ans ?
Oui, ouais. Il fait sa deuxième saison.
Alors, est-ce que cette qualification, finalement, est pas un bien pour un mal, je dirais, parce que...
Bonne question.
On sait toujours que l'objectif prioritaire, c'est le championnat, et que cette Coupe de France fatigue les organismes.
C'est la question qu'on s'est posée il y a 2 ans, quand le club avait joué contre Le Havre, avait fait le parcours en Coupe de France qu'on connaît. Au final, ça les avait pas empêchés de finir la saison invaincue.
C'était pas le même championnat.
C'était en DHR, mais finir une saison invaincue en DHR, après avoir fait le parcours en championnat qu'ils ont fait, finir champion de DHR, finaliste de Coupe de la Région, je crois.
Oui, l'année dernière, oui. Ouais. Perdu contre la réserve de Satan.
Et continue sur cette lancée.
Toi, pour toi, non, alors, Luc.
Pour moi... Ça peut jouer, mais...
Ça peut booster aussi, ça peut motiver.
Ça peut aussi booster, ouais, tout à fait.
Non, mais l'accumulation des matchs, ça peut être... et c'est très bien, d'ailleurs, pour garder le rythme. Après, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de blessés ni de suspendus. C'est le seul hic qu'il peut avoir. Mais après, jouer tous les week-ends, les joueurs aiment ça... C'est bon
enfin,
pour
là, du
le
coup,
moral.
C'est 2 fois par semaine avec cette Coupe de France qui va commencer à s'intercaler le mercredi. Ouais.
Pas encore.
Autour d'après, je crois. Et par contre, ce que dit Laurent, c'est que on l'a vu aussi l'année dernière. Je pense qu'une partie des joueurs a payé la grosse saison de DHR avec le parcours en Coupe de France. Et je pense que physiquement, quelques-uns l'ont payé aussi la saison dernière.
Patrick.
Oui, non. Je me souviens après le match contre Argelès en championnat, donc il y a quelques semaines, bon, j'avais fait une petite interview de Jérémy Brassac et bon, j'avais posé la question comment il voyait justement le parcours en Coupe de France. Et bon, j'avais bien senti quand même dans ses propos que ils étaient quand même pas dans l'état d'esprit d'il y a 2 ans. Là, on sentait vraiment qu'ils étaient axés sur cette DH et essayer vraiment d'enclencher les victoires d'entrée au championnat pour jouer la montée en CFA2. Bon, finalement, ils n'ont pas lâché la coupe puisqu'on se retrouve au 7e tour. Mais bon, voilà, je pense pas qu'il y a vraiment un début de saison, aussi bien de la part des dirigeants que du coach et que parmi l'ensemble des joueurs. Hein, bon, la Coupe de France, bon, voilà, maintenant, bien sûr, tu es au 7e tour, tu peux tomber contre une des deux, c'est sûr que tu es à fond dedans. Mais quand on était au 3e, 4e tour, bon, voilà, il n'y avait pas vraiment axé sur cette compétition. Quoi.
Laurent, l'AFL souhaite tomber directement sur un gros club Ligue 2 pour avoir une belle affiche ou préférez tomber contre un club un peu moindre et pouvoir continuer à passer des tours?
Je ne sais pas quels sont les souhaits des dirigeants, mais c'est sûr qu'avoir une belle affiche au stade d'Elmas-Amande, ça serait sympa, ça ferait venir du monde. Après, qu'est-ce qu'il vaut mieux, jouer tout de suite au 7e tour en Ligue 2 ou au 8e? Je sais pas, on verra.
L'année dernière, tu avais pris Lyon-la-Duchère, CFA, donc bon.
Oui, et voilà. T'étais pas passé.
Non.
Non.
Sinon, just, mais oui.
Sinon, il faut jouer Nîmes, comme ça, t'as des chances de passer, c'est une Ligue 2.
C'est ça.
Voilà.
Clairement, on pourrait accueillir la première entraîneuse. Ouais. Ça serait sympa.
Ça serait sympa.
Ah oui, clairement. Ouais. Clairement, Auxerre, il y a qui comme gros club Valenciennes?
Ouais, Auxerre, ça va être compliqué.
Ouais, après c'est pas cool.
C'est des poules géographiques.
Ah, c'est des poules géographiques, ouais. Donc on a qui? On a Nîmes, Arles.
C'est pas sûr, ça dépend de quel côté on va te mettre.
Bon, ben on va attendre. Alors si vous écoutez cette émission qui est rediffusée mercredi à 18h, le tirage aura déjà eu lieu vu qu'il est à 11h.
Vous remplacerez par, on va bien voir, par le nom de l'équipe qui a été tirée.
Voilà, exactement. Alors, le championnat de DH reprend ses droits samedi 17h, la réception à Delmas de Carcassonne. Donc, on continue à parler de Coupe de France, vu que Carcassonne, on les a reçus. Au tour d'avant, on avait gagné difficilement 1-0. Donc là, il va falloir également gagner pour remonter encore un peu plus en championnat. En Coupe Garloser, parce qu'il y a eu une Coupe Garloser ce week-end, Marvejols se qualifie 6-1 face au Brouzé Les Alès. Ouais. Alors avec 2 triplés, Oulabi, 2e, 9e, 56e, et Cartaillac, 12e, 61e, 65e.
Et je pense que ça va leur faire du bien aux Marvejolais qui sont un peu à la peine en championnat, qui ont du mal à décoller. qui ont changé de coach cette année, c'est Atita Diompi, l'ancienne de l'AFL justement, qui les a repris. Ouais, je pense que c'est bon. Ça va être bon pour le moral et pour la confiance pour Marvejol là, qui peine en championnat.
Voilà. Ouais, c'était une qualification attendue parce que Brousset les Alès, ils jouent en première division. Bon, ils sont en PHA. Bon, c'est vrai que le score est important et tant mieux. Bon, la semaine dernière, ils ont fait 2-2 contre Saumière qui était premier. Donc bon voilà, c'est vrai que la PHA, bon voilà, c'est quand même pas rien, et bon il y a un temps d'adaptation, mais moi je pense que Marvejol peut se maintenir sans problème et faire tranquillement un mieux tableau.
On va suivre ça, Laurent.
Autre résultat foot en Coupe Lozère, l'ENL a fait le court déplacement au Malzieu avec une victoire 9-0. Voilà, c'était juste pour.
Il y avait d'autres matchs aussi en Coupe Gare Lozère, et là par contre il y a Badarou qui a perdu au pénalty contre Salendre. Et donc là, ça aurait été un fabuleux espoir si Badarou était passé. Parce que Badarou, ils sont en première division de district. Et alors que Salendre est en PHA. Donc il y a quand même, ça fait deux divisions d'écart. Et donc, ça a été chaud.
Et descend de DHR.
Voilà. Et descend de DHR. Donc là, ils sont passés près d'un exploit. Et en Coupe Garlozère aussi, il y a Le Collet de Dèze qui a gagné 3-0 contre Chirac. Et il y a la STT qui a pris un beau carton, 10-1 contre Rousson. Mais Rousson est monté, est en PHB. Et bon, peut-être que Florac aussi a fait certainement l'impasse sur ce match de Coupe Gare Lozère.
D'accord.
Et d'autres, puisque tu as parlé de la Coupe Lozère, il y a eu d'autres matchs. Il y a Aumont qui s'est incliné à domicile contre Saint-Georges-de-l'Évejac, 2-1. Un match vraiment très disputé. Aumont qui occupe le haut de tableau en promotion de première, contre Saint-Georges aussi, qui fait un super début de saison en première division. Donc voilà, au moins c'est un club vraiment qui a le vent en poupe, qui a trois équipes seniors, plus une équipe féminine. Donc bon voilà. Et je connais bien le président, puisque il était président avant d'un club de foot à côté d'Avignon. Donc on s'est souvent rencontrés, nos deux équipes se sont souvent rencontrées. Et donc maintenant, il a pris sa retraite à Aumont-Aubrac, puisqu'il travaillait à la SNCF. Et donc, depuis quelques années, il a repris la présidence du club d'Aumont. Il fait un travail énorme. Et lui, son ambition, c'est de monter en première division et jouer en district Gare Lozère. Et je pense qu'il a de bonnes chances d'y arriver, quoi. Donc, félicitations à lui et félicitations à son club.
Il aura des réductions pour le train pour faire des déplacements?
Ouais, c'est vrai que... Heureusement qu'il y aura. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est vrai que ça va être chaud, ouais, mais bon.
Non, la gare d'Aumont doit fermer.
Voilà.
Ouais. Connaissant les rapports parfois entre les clubs lausériens et gardois, ça risque de tousser un peu si Aumont.
Ouais,
déjà que monter à.
Et peut-être qu'ils vont faire comme l'ENL et changer de territoire, partir sur l'Auvergne.
Ouais, pour bien connaître, je te dis, le président. Il est attaché quand même à la DDFL. Il fait partie de la DDFL d'ailleurs. Il est bénévole. Il fait partie du comité directeur. Bon, je le vois mal demander une dérogation pour jouer en Auvergne. Et en plus, je sais même pas si maintenant, c'est réglementairement.
C'est beaucoup plus compliqué.
Voilà, c'est beaucoup plus compliqué qu'à une époque. Et donc, voilà. Mais je pense pas que ce soit vraiment sa volonté de changer de département.
Ok. Et
dernier petit résultat de Coupe Lozère. Langogne a gagné 3-0 à Montroda.
C'était la minute de Patrick Biancone.
Ouais, merci beaucoup pour tous ces résultats. C'est important de parler de l'ensemble des clubs lozériens. En plus, tu en parles sans fiche.
Et il y aura d'autres matchs de Coupe Lozère le 11 novembre.
Allez, Laurent a une connerie à dire.
Non, c'est pas une connerie. Justement, je voulais demander à Sylvain s'il connaissait un petit peu le foot lozérien, s'il suivait les résultats, s'il avait une équipe en particulier, s'il était fan club du Buisson, de Nasbinal, je sais pas. Dis-nous un petit mot, s'il te plaît.
Ouais, je ne suis pas trop le foot lozérien. J'ai juste suivi le parcours il y a 2 ans en coupe. J'étais allé voir Le Havre et j'étais allé voir aussi la qualification face à Arles-Avignon. Mais à part ça, non.
D'accord. Donc tu étais dans les tribunes de ce match où il y a eu plus de 4000 personnes, un record absolu sur le territoire lozérien.
80 000, hein, t'as dit, c'est ça?
Non, 4100 et quelques, c'était
c'est,
officiellement.
C'est un peu comme le fameux match de l'OM où il y a un D2 qui s'est joué devant 800 personnes et bizarrement, il y a à peu près 80 000 Marseillais qui ont assisté.
Ils ont tous des billets du match.
C'est ça.
Ok, allez, page basket maintenant, Régional 2 féminine, poule A, les filles s'imposent 50-43 face à Frontignan-la-Pérade. Alors Mandé, seconde derrière le pays de Lunel. Alors, c'était une équipe qu'elle connaissait, Luc, hein, parce qu'elles ont assuré leur maintien l'an dernier face à elle.
Oui, c'est ça, exactement.
Ah, alors, le match, un 4-0 pour commencer contre elles, puis elles sont passées devant, ouais, juste avant la fin du premier quart, quart-temps, et elles n'ont jamais quitté la tête.
Ouais, 4-0 après 5 minutes de jeu, c'est dire le niveau offensif. Hein,
ou le coach a dû crier, là.
Non, il y avait...
Il a le sourire.
Elles ont eu du mal à se mettre en route, et puis une fois que c'est parti, c'est... ouais, c'est une équipe qu'elles ont joué l'année dernière qui est très très rajeunie. Et non, franchement, il y avait le score, c'est 43-50. Ouais, 50-43.
C'est serré quand même, hein. 7 points en basket.
Il a mis en place une défense de zone qui a complètement dérouté l'adversaire. Donc, ouais, quand même, il faut le coach. Le coach, ça a quelque chose en sport, en particulier au basket. Il faut le dire.
On va être honnête, il y avait 15 points à un moment du match. Ça aurait dû finir à plus 15 ou plus 20.
Ah, elles ont fini en roue libre ?
Non, elles n'ont pas fini en roue libre, mais il y a eu des circonstances de jeu qui ont fait que les autres se sont un peu relancées.
Quelques petites blessures, tu
vois. Voilà, ouais, bah, j'ai des joueuses qui sont un peu blessées, un peu de déconcentration. Pour finir, voilà, ça a été un peu chaud sur la fin, là, l'écart. On a repris l'avantage un peu sur les deux dernières minutes. Ce sont un peu fait peur en fin de match, mais bon, ça va. Jamais trop en danger quand même.
Les blessés, pas trop graves quand même. Tu les perds pas pour la saison.
Non, ça va, mais je dois avouer que normalement, on doit pas avoir de match. Il y a un week-end de repos. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Je dis normalement parce qu'il y a un match qui... L'équipe de Montpellier a demandé à décaler le match au 1er novembre, mais j'attends toujours leur réponse. Donc, bon, s'ils ne nous répondent pas, on ne jouera pas ce week-end. Et puis, voilà.
Si tu as un petit souci, tu peux toujours demander à Ludo, qui a quelques notions en ostéopathie, pour venir soulager les maux de dos.
Et pareil, son dos est pas trac.
Je me suis bloqué le dos, là. Je ne peux pas bouger de la chaise.
Non, ça va. On a deux kinés dans l'équipe, donc je pense que ça va.
Ah, ça va.
Ouais, ça va.
Deuxième, c'est les deux premiers qui sont en play-off. Vous visez les play-offs. Hein.
Moi, en tout cas, oui. Elle, je ne sais pas. J'espère aussi. Non, clairement, là, on a fini les matchs aller. Honnêtement, hein, on aurait dû terminer cette phase aller invaincu, parce que les deux défaites, que ce soit contre Alès ou ça se joue sur la dernière possession, on a 6 points d'avance dans la dernière minute, et puis... on se loupe totalement sur la dernière possession.
Ça arrive.
Ouais, ça arrive. Il suffisait de mettre le ballon sous le maillot, d'attendre, de faire tourner le chrono et ça passait. Et contre Saint-Christol, où, voilà, avec une équipe diminuée, on aurait dit.
C'est qui les premières
Les premières, c'est Lunel.
C'est Lunel.
Ouais, alors je pense que.
Vous avez perdu contre Lunel.
On a gagné contre Lunel.
Ah, vous avez gagné contre les premières.
Je pense qu'Alès va passer devant aussi. Alès a un match de retard, donc je pense que vu qu'elles vont jouer contre les dernières. Elle devrait passer devant aussi.
Devant qui ? Devant vous ?
Devant nous, ouais, ouais. Officiellement. Je pense qu'on devrait être troisième une fois que tout le monde aura joué. Après, ouais, honnêtement, je pense qu'il y a moyen de finir dans les deux premières de ce groupe, ouais, sans trop de soucis.
L'objectif, c'est d'être dans les quatre premiers.
Non, c'est les deux premiers.
C'est les deux premiers. Ouais, c'est les
pardon,
deux premiers,
je n'ai pas écouté.
Ouais. Ouais, c'est les deux premiers. Les deux premiers, les quatre derniers, jouent des play-downs.
Alors, par contre, les garçons, alors ça va pas du tout, mais on l'a expliqué la semaine dernière dans la dernière émission, c'est que ça va être compliqué. Que tu nous disais le championnat va réellement commencer pour avec les playdowns, ils sont montés de division, ils s'y attendaient pas. Ça. Défaite contre la Croix d'Argent, Montpellier, 63-45. Mandé dernier avec 4 points. Alors pour ce match, ils ont fait jeu égal pendant 19 minutes, puis en 5 minutes, badaboum, 16 points de retard.
Ah, c'est un peu le problème, ouais, c'est un peu le problème, c'est qu'on a, les garçons, ils ont des gros trous d'air par moment où ce qui avait été le cas là, le match contre
Pézenas. Des trous d'air, ils font de l'aérophagie.
C'est ça. Le match contre Pézenas où ils étaient passés totalement à côté du deuxième quart-temps. Vous avez pris.
Fait rire Laurent. Dès que tu parles de Pézenas, Laurent rigole.
Ils avaient pris 30-2 dans le deuxième quart-temps contre Pézenas, qu'ils avaient totalement. Ouais.
Mais là, pareil, ouais.
Et là, ouais, ils ont
c'est un manque de banc, c'est quoi?
Profondeur,
non, c'est vraiment de la déconcentration.
Ouais, c'est de la déconcentration, un manque d'adresse un peu, et puis il suffit de baisser les bras 2-3 minutes et les autres en profitent pour prendre 10 points d'avance, et après voilà, après c'est compliqué. C'est dommage parce que je pense que c'est un match qui est à leur portée. Pour moi, l'écart ne reflète pas vraiment la physionomie du match.
Ok, très bien. Bon, ben on suivra les résultats. Allez, on passe à notre invité Sylvain Tichit, président du Badminton Club Mandois. Donc, on le disait, ce week-end, 11e édition du tournoi du BCM. C'est un BCM comme
BCM
le basket.
48 aussi.
Et 200 participants, c'est habituel ce nombre de participants, ça me paraît énorme, moi.
Normalement, c'est autour de 180 participants. Cette saison, on a été un peu, on a pris un peu plus de monde. On est arrivé à 194. On a une formule qui comprend l'inscription au tournoi, soirée plus nuit d'hôtel qui fonctionne très bien.
Ça veut dire que vous avez des gens de l'extérieur de Mende
qui viennent? Des gens de l'extérieur, oui, cette année on a nos records de région. Je n'ai plus les chiffres exacts de région, mais on a un participant qui venait du nord de la France, du département du Nord, du Pays de la Loire, de Lyon, ça allait jusqu'à Perpignan, Toulouse.
Il y a quoi? Il y a une voiture à gagner ou?
Il n'y a pas de voiture, il y a juste la chance de pouvoir jouer contre d'autres personnes. Parce que Mende est très bien situé géographiquement, vu qu'on est à 2 heures de Clermont, 2h30 de Nîmes, 2 heures de Montpellier. Les gens viennent, ils rencontrent d'autres personnes et c'est devenu, c'est ancré maintenant qu'au changement d'heure d'hiver, le tournoi de Mende, c'est noté dans les calendriers.
Et puis il y a la réputation de Patrick.
Ouais, mais justement, ils ne devraient pas venir, ils savent qu'ils ne vont pas gagner.
Ah, non, mais c'est un peu comme si on te proposait d'aller jouer contre Montpellier Hérault.
Tu refuses pas. Voilà, c'est vrai.
Les gens se frottaient à Patrick Biancone.
Mais ce qu'il faut signaler, c'est que bon, tu as 594 inscrits, mais bon, tu peux pas faire plus. Tu pourrais, au niveau d'inscription, il pourrait y avoir 250 faciles joueurs. Mais bon, après, sur les terrains, ça passe pas parce que, ça tourne, il y a 6 ou 7 terrains, mais bon, tu finirais à minuit, ou 22h ou 23h.
Faut expliquer que le samedi, vous avez 2 gymnases assez.
Deux gymnases le samedi, il y a eu le technique qui a été utilisé de 8h à 16h. Et l'Avernet qui a été utilisé de 9h à 19h30, parce que toutes les finales du samedi se sont déroulées à l'Avernet, et que le dimanche ça a commencé à 8h, finir à 18h, donc on peut pas faire plus, sachant qu'on veut que quand même ça reste un tournoi convivial et bon esprit, donc on veut que le dimanche ça soit regroupé que sur un seul site.
Mais pour un titre indicatif, là, j'ai discuté avec un joueur qui venait de Tournefeuille, c'est dans la banlieue toulousaine. Et dans quelques temps, il va participer à un tournoi à Lyon. Ben, Lyon, c'est 350 inscrits. Donc voilà. Donc nous, on est à 194. À Lyon, 350. Bien, bon, voilà, ça donne un peu bien. Un ordre d'idée.
C'est un gros événement, ça, à organiser. Vous avez beaucoup de bénévoles.
Il y a une très bonne équipe de bénévoles. Il y avait 30 joueurs du Badminton Club Mandois qui, en gros, ont tous participé à cette fête. Et on a aussi l'ancien président Eric Ittier qui gère ça depuis plusieurs années et qui le gère très 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 bien.
Au niveau de l'arbitrage, comment vous faites? Vous avez des arbitres agréés? C'est des joueurs qui
donc
arbitrent?
Donc en Lozère, il y a juste 2 arbitres agréés, mais il y a l'ancien président Eric Ittier et moi-même. Mais sinon, c'est un auto-arbitrage tout le temps. On essaie d'arbitrer quand même les finales pour que les finalistes n'aient pas à se préoccuper du score.
On parle du badminton, peut-être que tout le monde ne connaît pas le badminton. Alors moi, le peu que je vois, c'est un terrain de tennis avec un filet de volley. Dis-nous, c'est quoi le badminton? Les règles.
Les règles, ça se déroule en 2-7 gagnants de 21, en tie-break. Donc du coup, c'est comme le volley pour le comptage des points. Ça se joue en volant plume ou plastique. Donc dans les deux compétitions, c'est le plume qui doit être utilisé.
Ça va plus vite les plumes, non?
Oui, ça va plus vite et c'est pas la même trajectoire. On a une trajectoire plus arrondie avec un volant plastique et une trajectoire plus rectiligne avec un plume et ça va beaucoup plus vite. Parce que le record du monde en sortie de raquette avec un volant en plume est à 493 km/h.
Ah oui.
Ah ouais.
Donc qui va plus vite que le
Ça
le
c'est
tennis,
Steven
quoi.
Seagal ça. Ça va vite. Moi j'y étais.
Se déroule il y a 5 disciplines au badminton. Il y a le simple homme, le simple dame, le double homme, le double dame et le double mixte. Et ces 5 disciplines sont olympiques depuis les JO de Barcelone en 92.
Voilà, c'est ce que je vais te demander après. Le grand rendez-vous finalement pour. Et c'est un peu le problème d'ailleurs pour le badminton, c'est les JO quoi. On voit le badminton à la télé une fois tous les 4 ans.
Oui, c'est médiatisé qu'aux JO. qu'on a la chance d'avoir un ou une Française qui participe.
Ça marche comment? Comme le foot, il y a une division 1, division 2, etc., des régionales, des nationales?
Il y a des interclubs nationaux, il y a un top 12 qui regroupe les 12 meilleurs clubs de France. Et après, il y a une nationale 1, nationale 2, nationale 3, et après on va en régional et en départemental. Le club de Mende n'a pas d'effectif pour monter une équipe régionale, parce qu'en département, on peut pas, il n'y a pas d'interclub départementaux, parce que les autres clubs n'ont pas d'équipe. Et en régional, on n'a pas assez d'effectifs pour jouer.
Ça reste surtout...
C'est un effectif compétiteur qui tienne la route.
Patrick.
Donc, ce qu'il faut dire, bon, moi, ça fait 5-6 ans maintenant que je prends ma licence au BCM. Bon, j'ai fait beaucoup de tennis dans ma jeunesse, et bon, là c'est vrai que je retrouve un peu mes sensations que j'ai connues quand j'étais adolescent. Bon, c'est un sport fabuleux parce que on se dépense énormément. Il y a un côté comme au tennis vraiment mental où en 5 minutes le match peut totalement basculer. Bon, moi par exemple là j'ai fait un match en simple, je mène 11-3, et bon, quand tu arrives à 11, tu peux demander une coupure pour justement reprendre tes esprits. Je mène 11-3, et puis j'étais au deuxième set, j'avais gagné le premier. Donc dans ma tête, j'ai dit c'est bon, je suis en roue libre, et puis je me suis retrouvé à 18-18. Donc et je gagne le set que 21-18. Donc en 6 minutes, il m'a explosé, il est revenu à 18-18, et bon voilà, il y a des retournements de situation, c'est ça qui fait aussi la force de ce sport.
Et contrairement au tennis, on apprend très très vite. Moi j'en faisais aussi du badminton, le tennis, il faut des années pour s'en servir, d'ailleurs je sais toujours pas servir.
On apprend très très vite.
Et c'est super ludique le badminton.
Et ce qui est très intéressant dans ce sport, c'est que c'est vraiment par catégorie, c'est-à-dire il y a une non classée, après tu passes en D, après tu passes en C, après tu passes en B. Donc vraiment tu joues contre des gars qui sont vraiment de ton niveau. Et bon, là, c'est intéressant parce que bon, là, à côté, j'ai mon président, et si on fait un simple et qu'il joue sur sa valeur, bon, je finis à 21-5.
Les catégories, voilà. c'est par rapport au niveau, c'est par rapport à l'âge, c'est par rapport à quoi?
Non, c'est par rapport au niveau. Donc, les classements vont de A à D, donc, et non classé. Donc, on commence par non classé, et après, on passe de niveau, on arrive au niveau D, et chaque lettre est divisée en 4 chiffres. Donc, ça va de D1, D2, D3, D4.
D'accord. A, c'est plus faible, et D,
meilleur. D, c'est plus faible, et A, c'est plus fort. Donc, ça fait non classé, de D4, D3, D2, D1, et après, on remonte jusqu'à A.
Toi, tu es classé combien, par exemple?
C4.
C4. Et toi, Patrick?
Ben, moi, je suis non classé.
Ah, t'es non classé.
C'est voilà. Qui fait 5 classements d'écart.
Et il parlait tout à l'heure d'un gars qui venait de Grande-Sainte, là, donc à côté de Grenoble. Bon, c'est lui qui a gagné le simple. Mais, alors, je sais pas si c'est un simple ou un double, je me souviens plus, mais son classement, c'est A4. Hein. Donc, bon, voilà. Donc,
A4, on ne pouvait pas l'accueillir.
C'est un beau format.
21 par 29-7.
Voilà, bon,
il a gagné d'ailleurs 21 par 29-7.
Là, quand il met des mines, bon, ben, là, il faut aux abris. Hein,
là, ça va vite.
Oui, juste une petite question. On parlait tout à l'heure d'une équipe régionale. Il y a beaucoup de licenciés au club mandois, mais beaucoup entre guillemets en non classé ou en loisir.
Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a à peu près 100 adultes et 30 enfants. Donc au niveau des enfants, on est complet, qu'ils soient à l'école de jeunes. Et les adultes, oui, il y a un grand effectif qui est en non classé et en loisir. Et après, il y a quelques classés, mais qui se comptent une grosse vingtaine, quoi.
Et alors, qui c'est qui fait ce classement-là? Pour qui décide?
Mais les classements se font par rapport au match gagné, par rapport à chaque, par exemple, sur une saison entière.
Donc tout le monde attaque D4, en fait.
Pas sur la saison, quoi. Quand on commence, on attaque toujours non classé. Et après, en fonction du nombre de matchs qu'on gagne, par exemple, un non classé, quand on bat un non classé, ça vaut un certain nombre de points. Si je bats un C, ça me vaudra 30 points de plus.
Tu gagnes à 4, boum, tu montes.
Oui, c'est assez compliqué à expliquer.
Oui, et ça reste surtout un sport ludique jouer avec convivialité.
Ça se pratique un peu comme le tennis, quoi. C'est un peu le même sort de classement, mais c'est pas la même façon.
Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour jouer au badminton? Quelles sont les qualités requises?
Il n'y a pas de qualité. Enfin, c'est un sport que tout le monde peut pratiquer. On peut être mince ou être aussi d'une personne forte, et on peut pratiquer ce sport, sachant que la personne forte peut battre quelqu'un en compensant sa technique justement, et aussi son mental, parce que moi j'ai vu des personnes qu'on dirait, enfin, que j'ai j'admire et je félicite de jouer, pratiquer ce sport. Par contre.
Il faut être vif, rapide.
Oui, il faut être très vif, rapide et très concentré aussi, parce que un brin de... Si on n'est pas concentré, on peut passer à côté de 4-5 points et le match, comme disait Patrick. Ouais. Retournez-moi à Patrick, il était sur ce match de simple, mais moi j'en ai un autre. Il a deux volants de match à 20-18 au troisième set, donc il doit finir et Patrick perd 22-20 le match.
Ah, Patrick
Voilà, donc alors quand même, pour rétablir la vérité, bon, j'ai un simple quand même, j'ai perdu en demi-finale, et un double, j'ai perdu en finale, donc bon. Je suis quand même assez satisfait de mon tournoi, même très satisfait, puisque ça m'était jamais arrivé. Et donc pour répondre à notre ami Laurent, voilà, donc j'ai gagné quelques matchs là ce week-end. Ben si j'en gagne encore 3 ou 4, ben je vais passer D4.
Ah, je vais monter le niveau. Voilà.
Là, je suis non classé. Et bon, grâce à ces points que j'ai marqué là ce week-end en tournoi officiel, si je fais encore un ou deux autres tournois aussi, je vais encore marquer des points si je gagne des matchs, et ça va me permettre de passer au niveau supérieur. Voilà comme ça marche.
Au niveau international, la France, on se situe où? C'est les pays asiatiques toujours qui sont en tête?
Les pays asiatiques dominent vraiment le monde. Les Français sont à le meilleur Français 49e, c'est Brice Leverdez. Et la première Française, qui est Shashina Vigne, est 33e mondiale. Donc ce week-end, il y a eu aussi un Super Series à Paris, qu'on peut comparer au Master Series de Bercy au tennis. Les Français ont quasiment perdu tous perdu au premier tour ou en qualification. Et c'était dans toutes les finales, si je ne me trompe pas, je ne sais même pas s'il y avait un Européen, il n'y avait vraiment que des Asiatiques.
On n'a pas naturalisé des Asiatiques comme ça.
Si, mais, bon, mais là, par exemple, la France... Elle a pris sa retraite. Là. Ah. C'était une Chinoise, qui était naturalisée française, qui a fait les Jeux Olympiques, bon, qui a fini, qui était au même dans le top 5 mondial. Bon, là, ça y est. Bon, en plus, elle a eu des blessures, elle a arrêté sa carrière. Et donc là, après, pour réenclencher, c'est compliqué au niveau de la fédération.
C'est quoi les nations phares? C'est Indonésie,
Malaisie,
Chine,
Chine. Et en Europe, c'est le Danemark. Le Danemark est très fort, est très fort à ce sport.
Et je tiens quand même à dire qu'il y a quand même une championne du monde européenne en août dernier, qui est une jeune de 21 ans, qui est espagnole, qui a quand même...
Qu'est-ce qu'on a de moins que ces pays asiatiques?
On manque un peu de culture. Ouais. Alors, c'est en train de changer, parce que c'est là où je voulais en venir. Maintenant, au niveau de l'UNSS, en France, le premier sport pratiqué en UNSS, c'est le badminton. Donc voilà, je pense qu'il va sortir après des jeunes qui vont commencer dès l'âge de 6-7 ans et qui vont attaquer le badminton très tôt et qui vont peut-être, voilà, certainement même enclencher. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a... Il y a un jeune Langonais qui vient d'intégrer cette année un pôle badminton à Bourges. Et ça aussi, c'est... Bon, tu me contredis peut-être, Sylvain, je ne sais pas. C'est la première fois
que ça arrive. Va à Bourges.
Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du club de Mende, mais il y a aussi deux autres clubs en Lozère qui sont affiliés à la fédération française. C'est Marvejols et Langogne. Et après, il y en a d'autres d'autres villes. On joue aussi au badminton, mais il n'y a pas de club structuré fédération. Alors on joue à Meyrueis, à Saint-Chély, à la Canourgue, à Florange, je crois.
Moi, je joue à Saint-Chély, avant de me casser le dos.
Pour nos jeunes auditeurs, à partir de quel âge on peut attaquer le badminton, et est-ce qu'il y a des structures, des clubs qui...
Il y a des structures, par exemple, à Mende, on prend à partir de 9 ans. Je sais qu'à Marvejols, ils font un plateau de 7-8 ans, ils prennent à partir de 7 ans. Après, c'est vraiment dû au niveau motricité, de coordination avec la raquette et le volant, à commencer plus jeune.
Le filet doit être un peu moins haut, peut-être.
Le filet est moins haut. Pour jusqu'à 11 ans, il est moins haut, et après, on passe à la taille.
D'accord. Par contre, le terrain reste le même pour les...
Non, ils ont pas il y en a un couloir du fond, et les poussins.
Ils jouent dans le couloir du gymnase.
Les poussins n'ont pas, il est plus petit, le terrain.
Ah, d'accord.
Pour les seniors comme nous, si on veut en faire, voilà, au mois de décembre, alors que la saison a commencé, on peut toujours venir.
Oui, on peut toujours venir en faire.
Les entraînements, c'est quand?
Les entraînements sont du lundi au jeudi pour les adultes, et c'est le soir de 19h à 21h le lundi, le mardi, le jeudi, le mercredi de 20h30 à 23h, et le samedi après-midi, il y a un créneau de 2h réservé, et on a l'école de jeunes le vendredi de 18h à 21h, qui est encadré par deux personnes.
C'est dans quelle salle que vous pratiquez ça?
On joue au lycée Pétavin, au technique.
Vous commencez pas être un peu à l'étroit au niveau horaire et gymnase?
On commence à être à l'étroit au niveau terrain, parce qu'au technique, il n'y a que 5 terrains. S'il y en aurait 7, on serait un peu mieux et on pourrait faire peut-être plus de simples. Parce que là, vraiment, d'entraînement, c'est beaucoup de double ou de mixte.
Et vu que Patrick fait des matchs en 21-18, pour attendre, c'est un peu compliqué.
Si Patrick nous fait des matchs en 3-7.
Ouais, c'est vrai qu'en plus, après les tournois, bon, pour ceux qui, comme moi, ça entraîne une seule fois par semaine. Bon, je peux vous dire que le lendemain, quand on se lève, on a mal partout. Ouais. Et bon, je suis pas dans le même état que Ludo, quand même pas. Mais j'avais mal les jambes lourdes. Et...
Je me suis laissé dire que le président a eu une dure journée de samedi aussi physiquement.
Voilà, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait le tournoi de Mende, mais le samedi soir, il y a une soirée qui est ouverte à tous les joueurs. Donc, bien sûr, il n'y avait pas que des Mandois à cette soirée. Il y avait un peu tous les clubs. Il y avait à peu près une centaine de personnes. Ça s'est passé au gymnase Saint-Privat, avec disque jockey et bon quelques boissons. Voilà pour adultes, on va dire. Donc
et après pour
donc samedi soir, et puis il faut rien clencher le dimanche. C'est vrai que le dimanche matin, le premier match, il est compliqué quand même.
Allez, on fait une pause musicale. Tu restes avec nous, bien sûr, Sylvain, pour l'actualité nationale et internationale. 13h16, on va se dépêcher. Allez, Sheehan, Him, et on se retrouve de suite après. I'm not afraid to Allez, c'est reparti pour cette seconde partie d'émission. Donc, c'était elle et lui, voilà, she and him. Pour ceux qui me demandaient qu'est-ce que j'ai dit avant la pause musicale, j'annonçais le nom du groupe.
On n'a pas compris ton accent.
Parce que tu ne connais pas ce groupe, c'est pour ça. Mais moi non plus, d'ailleurs. On salue Julia qui.
Et puis l'anglais, voilà.
Et ouais.
Et les Seonol, ça fait deux, quoi.
L'anglais, c'est pas toujours ça. Alors, il nous reste 10 minutes. Allez, on va pouvoir pousser un peu plus, mais pas trop pour parler de l'actualité nationale. On va se dépêcher et internationale. Rugby, championnat d'Europe, fortune diverse pour les équipes françaises. Toulouse s'impose à Basse, Montpellier perd contre Glasgow. Toulouse, Montpellier qui est troisième, Toulouse deuxième. Pool 3, champion d'Europe en titre, Toulon gagne à Ulster et premier. Clermont bat les Saracens 14-3 et second derrière le Munster. Et Castres est bon dernier après sa défaite face à Leinster. Donc fortune diverse pour les équipes. On disait il y a quelques années que, enfin l'an dernier, voire il y a deux ans, que les équipes françaises reprenaient la tête des équipes européennes. C'est le cas, Patrick, le rugby français sur le toit de l'Europe.
Je dirais pas ça parce que quelques équipes oui, mais il faut vraiment à mon avis individualiser les équipes. Il y a déjà des clubs au bout de deux matchs, ben ils savaient déjà qu'ils sont morts. Tu parles de Montpellier et Castres, bon mais ben, ça va, ils peuvent déjà penser au championnat. Alors bon, Montpellier, tu entends, voilà, ben nous c'est ici en début de saison, la Coupe d'Europe, et là, puis au bout de deux matchs, après c'est réglé, ça fait 3-4 ans que ça dure, et c'est vrai que ça, c'est un peu gonflant, je le dis franchement. On monte tout un tas d'équipes, et alors que finalement chaque fois ça retombe comme un soufflé. Voilà. Alors après, par contre, ben t'as les top clubs, ben voilà, Toulon avec son armada de joueurs, voilà, venus du monde entier. Bon, ben, eux, ils sont là, Clermont aussi.
Toulouse, qui est là aussi, malgré voilà, des saisons compliquées.
Exactement. Mais c'est vraiment, voilà, il y a vraiment deux niveaux. À mon avis, il y a deux niveaux d'écart parmi les équipes françaises. Alors c'est pour ça que dire que le rugby français est sur le des clubs et en équipe nationale encore moins puisqu'on est complètement dans la panade, mais dire que le rugby des clubs est sur le toit de l'Europe, pas sûr.
D'autant que le format de la Coupe d'Europe a changé cette année et que le niveau a été resserré hein, puisqu'il n'y a plus d'équipe italienne, il n'y a plus qu'une équipe écossaise, donc ça veut dire que le niveau il est monté d'un cran aussi.
Ok, très bien. Allez, on se dépêche parce qu'on a une défaite de l'OM. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent, tu veux
non,
parler?
Non, rien du tout. J'attends impatiemment le résultat du club de Montpellier.
Oui. Alors ça, il va falloir voir. Parce que cette émission va peut-être s'arrêter si Montpellier continue à perdre. J'en ai marre d'annoncer des défaites. Dans les autres sports, la 57e édition du Critérium des Cévennes avec la victoire de l'Alésien Stéphane Sarrazin. Donc voilà, c'était à noter. Ça s'est tenu pas loin de chez nous. C'est un Alésien qui gagne.
Ouais, Stéphane Sarrazin qui a montré comment on pouvait commencer dans une spécialité automobile et très très bien réussir dans d'autres.
Je croyais que tu allais dire on pouvait être gardois et gagner quelque chose.
Aussi, mais de Barjac d'ailleurs, Stéphane, il n'est pas véritable.
Barjac dans le Gard. Hein,
Barjac dans le Gard, absolument. Il a été pilote de Formule 1 puisqu'il a un Grand Prix à son actif, Grand Prix du Brésil.
Excellent pilote, Stéphane.
Et qu'il s'est reconverti après être passé dans l'endurance. Maintenant, il fait de très très bons pilotes de rallye. Il fait des galettes aussi.
Ouais, ok. Dans les autres sports,
au Sarrazin,
oui, mais on a compris. Merci, Luc. En tennis, l'américaine Serena Williams a remporté dimanche son troisième master d'affilée en battant en finale à Singapour la roumaine Simona Halep 6-3, 6-0. Alors le tennis c'est un sport spécial, il y a 2-3 joueurs qui dominent chaque catégorie, masculine, féminine, et en fait il faut attendre qu'ils soient vieux pour que ça change. Patrick, ce sport oui, particulier à regarder.
C'est encore plus au niveau féminin. Bon, encore au niveau masculin, tu peux avoir 3-4 joueurs.
Djokovic, Federer, bon, Nadal.
Oui, mais si tu vois un peu les grands chelems, il y a quand même, je crois qu'il est croate, Cilic qui a gagné. Bon, alors qu'en féminine, bon, voilà. Mais c'est le tennis, c'est comme ça, c'est un sport aussi très, très particulier, un peu à maturation lente, puisque Serena Williams a plus de 30 ans. Alors bon, c'est en plus un personnage complètement hallucinant. Hein. Elle a fait, je sais pas si vous avez vu sur internet, mais à Wimbledon en double avec sa sœur, elle arrivait même pas à servir, elle a été obligée d'abandonner. Personne, même encore aujourd'hui, sait vraiment ce qu'elle a eu, si c'était un virus ou si elle a fait une sorte de burn-out. Il y en a qui disent qu'elle a fait un burn-out, donc c'est-à-dire une grave dépression. Donc voilà, c'est quelqu'un de particulier, cette Serena Williams, c'est entraîné par un Français, une sorte un peu de gourou, voilà, une sorte de magicien. Et bon, ben, c'est quand même, enfin, ce qu'elle fait, c'est quand même hallucinant. Il faut lui rendre hommage parce que c'est quand même un personnage hors du commun.
Moi, j'avoue que j'ai, mis à part la Coupe Davis, j'ai un peu de mal à me passionner pour le tennis. Parce que.
Bah, les matchs sont longs déjà, bah, quoi. Il faut avoir 3 heures.
Et puis, il y a une hiérarchie qui est tellement établie que. Au-delà des demi-finales, on sait forcément qui va être le vainqueur. Quoi. Ça va être Nadal, ça va être Djoko, peut-être un Federer ou X qui va gagner. Mais je trouve que c'est tellement figé que c'est un peu chiant des fois.
C'est le 28, ce sport qui est quand même proche du badminton.
Je le suis un peu, oui. Je vais aller assister à Roland Garros cette année.
Ça doit être intéressant à voir. Hein.
Très intéressant, mais bon, on peut se rendre compte que il y a l'US Open dernier, il y a eu la finale qui était Nishikori Cilic, si je me trompe pas.
C'est ça.
Qui a quand même fait démentir que les 4 meilleurs mondiaux n'étaient pas en finale. Plus en garçon qu'en fille, parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours Sharapova ou Williams, qui est là. Mais chez les garçons, on peut encore faire des exploits quand on voit. Les Français comme Tsonga ou mon fils qui arrivent à renverser quelques matchs. Le problème, c'est qu'il manque un peu de régularité et nous faire rêver jusqu'à la finale. Espérons qu'en Coupe Davis, ils vont nous faire un peu rêver.
Ouais. Dans un mois.
La Coupe Davis a ce côté un petit peu surprenant, un petit peu plus fou que. Enfin, pour moi, manque un peu au tennis de ces 5 dernières années, quoi. J'ai connu une époque où le tennis était un peu, il y avait un peu plus de surprises. Là, j'ai l'impression que ça tourne un peu toujours autour des mêmes.
Très bien. On reparlera de la Coupe Davis au moment donné, c'est-à-dire d'ici un mois, avec une spécialiste tennis qui nous rejoindra. En football, les résultats de la Ligue 1, le Classico, la victoire de Madrid également, 3-1, donc Madrid vraiment au-dessus du Barça.
Un grand Benzema surtout. Voilà, c'est vrai que. On attend beaucoup de Benzema en équipe de France. Il a fait une bonne Coupe du Monde, mais bon, contre l'Allemagne, il aurait dû être ce joueur qui nous fasse basculer du bon côté. Bon, il a fait un bon match, mais il a pas changé la donne. Voilà, quand on le voit jouer à Madrid, c'est vrai que j'ai l'impression parfois que c'est pas le même joueur. Bon, il faut dire aussi
qu'il a pas les mêmes coéquipiers non plus.
Voilà, il y a pas Ronaldo à côté de lui. Bon, voilà, mais c'est
Modric qui joue. Alors j'ai regardé les stats, 41 ballons. 100% de passes réussies.
C'est donc, pas celui dont on parle le plus, Luka Modric.
Voilà. C'est le top niveau, quoi.
Et surtout, au-delà de ça, c'est que le Barça qui est en train de sévèrement marquer le pas. Ils ont perdu en Ligue des Champions contre PSG. Ils ont eu un peu du mal contre l'Ajax aussi.
Il y a une passation de pouvoir claire et nette. Et puis une équipe du Barça, un milieu de terrain qui est vieillissante avec Xavi et Iniesta qui reste encore très bon joueur, mais.
Il est peut-être un peu vieillissant maintenant. Un petit problème de coaching aussi, à mon avis, avec un côté droit où il s'est dit je vais laisser Alves piquer Suarez. Quant à Marcelo qui arrête pas de monter, Ronaldo, il vaut mieux. Il s'est un peu planté.
Piqué aussi qui traverse.
Waka Waka.
C'est ça, une mauvaise passe.
Il a du mal.
C'est vraiment. Alors, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est vraiment. Un phénomène qui va durer, je sais pas.
Vu qu'on parle de matchs internationaux, je vais vous faire écouter quelque chose. Donc, on a eu les pronostics la semaine dernière. Donc, Monaco, bien sûr, on s'est tous plantés. On avait tous donné la victoire de Monaco, sauf Fadil qui avait donné la victoire du Benfica. Et donc, il y a eu 0-0 du Sporting.
Non, Benfica.
Du Benfica. 0-0. Par contre, au foot, on a peut-être eu un bon résultat. On va écouter.
Allez, Paris 3-0.
3-0.
2-0 pour Paris.
2-0 Paris aussi.
Non, il faut être réaliste, 0-0.
0-0, allez, on va balancer 1-0 pour Paris. Voilà, donc si vous voulez suivre nos pronostics et gagner de l'argent, donc écoutez-moi, on n'a pas de pronostic à faire pour aujourd'hui, Laurent. T'as 3 minutes pour trouver.
Il y a la
Coupe de la Ligue, mais on s'est dit qu'on
s'en fout. On s'en fiche. Est-ce que quelqu'un s'intéresse encore à la Coupe de la Ligue?
Eh oui, je me demande. Allez, on se dépêche, la Ligue 1, les résultats: Toulouse 0, Lens 2, Paris 3, Bordeaux 0, Bastia 1, Monaco 3, Caen 2, Lorient 1, Evian 0, Nantes 2, Reims 1, Montpellier 0, Rennes 2, Lille 0, Lille ça va pas, hein. Guingamp 2, 7, Nice, Saint-Etienne 1, Metz 0. Saint-Etienne, ça va très bien. Lyon 1, Marseille 0. Donc, alors, Paris se rapproche. Ça y est, 4 points d'écart seulement. Donc, je me rappelle la dernière émission où, à part moi qui ai donné Paris champion, tout le monde a Marseille, beaucoup de points d'avance, tout ça. 4 points, Patrick. Bon, le match d'hier, il méritait pas de perdre Marseille.
Voilà, honnêtement, moi, c'est vrai que quand je parle de Marseille, je suis pas forcément objectif. Mais bon, là, je pense qu'objectivement, on peut dire que cette défaite n'est pas méritée. Bon, une première mi-temps violente, hein, on peut dire ça comme ça, parce que énormément de coups francs et bon, des tacles
un peu de
tous les côtés. Donc, mais quand même intéressante, parce qu'une confrontation tactique entre les deux équipes, c'était intéressant. Et puis après une deuxième mi-temps, on a vu un vrai match de foot. On critique souvent la Ligue 1, souvent à juste titre. Mais là, à mon avis, je pense que ça a été une bonne promotion pour notre championnat. Et donc cette deuxième mi-temps, Marseille a fait un début de deuxième mi-temps vraiment canon, avec un tir sur le poteau de Mendy, un arrêt de Lopez sur une reprise d'Ayou, vraiment d'un autre monde. Et puis après, il y a eu cette contre-attaque de Lyon. Et puis après, je pense que Marseille devait avoir ce pénalty pour cette faute flagrante d'Umtiti sur Thauvin. Et d'ailleurs, l'équipe, on ne peut pas dire que l'équipe soit vraiment un journal marseillais. Ce matin, c'est marqué noir sur blanc dans les coins de l'équipe. Pour l'équipe, il y avait bien pénalty, donc c'est qu'il y avait certainement pénalty.
On sent toute l'objectivité de Patrick dans cette dernière intervention.
Laurent,
j'avais une question à Patrick, qui est supporter de Marseille, visiblement. Qu'est-ce que tu préfères, que Marseille joue bien et perd, ou un match moyen et Marseille qui gagne?
Non mais c'est vrai qu'on a tellement vu de matchs ces dernières saisons complètement pourris, il faut le dire, de Marseille, que là cette année on se régale. Et même hier, malgré cette défaite, on va se coucher, mais on est quand même rassérénés, parce qu'on a vu du jeu, on a vu du football, et on a vu une équipe qui même à l'extérieur, même à Lyon, a attaqué et voulait vraiment.
Après, on disait Marseille, premier grand choc contre Lyon, on va voir ce que cette équipe vaut, et au final défaite. Hein.
Oui, mais on a répondu. Je pense que Marseille a quand même répondu présent.
Après, c'est pas comme si on avait pris 3 en montrant absolument rien. Dans le jeu, ils ont montré qu'ils étaient présents. Après, faut
comme Paris, quoi. Ils en ont mis 3 en montrant pas grand chose.
Paris en a mis 3. Bon, alors j'ai pas vu le match, mais. Ils en ont mis 3. Non, ils ont plutôt dominé.
J'ai vu un péno qui était un peu litigieux.
Ouais, après il y a 2 cartons rouges qui sont totalement justifiés. Les pénaux, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse contestation sur les pénaux.
Non, bon, ça n'y a un peu contesté, c'est la règle du jeu, mais c'est pas un scandale.
Non. Par contre, en revanche, je voulais quand même souligner le bon retour de Johan Gourcuff, qui a inscrit le but de l'OL.
De toute façon, Gourcuff, il est bon, mais il faut qu'il soit pas blessé.
Il faut qu'il soit régulier. Il a même été applaudi par Gerland, comme quoi, signe qu'il a fait un très bon retour. Mais comme le disait Patrick, effectivement, c'est vrai que je pense que le nul aurait été
largement
convenable. Voir une victoire de Marseille, c'est vrai que.
Non, mais le nul.
Que Lopez a sorti 2-3 bons ballons. C'est ce qu'on disait un peu. Comment va réagir l'OM, d'autant qu'on est à 15 jours du Classico contre PSG.
Voilà, alors tu parles du Classico, tu fais bien. Parce que, l'arbitre. Est-ce qu'il le savait? Non, je pense pas. Là, c'est un peu la boutade, mais presque on peut croire qu'il avait ciblé les joueurs marseillais, puisque tu as Morel et Ayou qui seront suspendus contre Paris.
Il y en avait
parce
3.
Qu'ils avaient, voilà.
Il y en avait 3 et donc.
Aïe, Morel suspendu. Ils sont amoindris, Marseille.
Non, mais le problème de Marseille, c'est que pour l'instant, les remplaçants, on les a quasiment pas vus, parce que Bielsa, il fait quasiment pas tourner. Ils ont acheté un attaquant belge, je sais pas combien, il a joué.
Ah, ils ont eu un blessé, là, Marseille.
Oui,
Imboula.
Djadjidji. Il a pas une KO, tête contre tête.
Ouais, a priori, mais ils ont acheté cet attaquant belge qui en a quasiment pas vu. Le défenseur.
Ouais, mais les joueurs suspendus, c'est pas des attaquants, donc on le verra pas non plus.
Oui, non, on le verra pas non plus, mais ce défenseur, fameux défenseur brésilien, la Doria, qui. Apparemment personne ne voulait, puisque c'était le coach qui le voulait, d'après le président, et d'après le coach c'était le président.
Ça sera l'occasion de faire ses grands débuts, autant il va détrôner Morel de son piédestal.
Tout à fait,
aura une belle surprise.
Morel sur un piédestal, quand on a vu comment il a joué ces dernières saisons, c'est quand même un peu improbable.
Et oui, mais cette année c'est le boss, quoi.
C'est ça. Et par contre, Paris de son côté aura pas un joueur clé, qui est Thiago Motta.
Entre temps il faut que Marseille batte Lens, qui reste dernier au classement, mais qui a battu
belle victoire
Toulouse,
2-0 à Toulouse.
Non, ils sont plus derniers. Derniers, c'est Guingamp.
Ouais, 16e Lens, ils sont remontés, ils sont plus relégués.
Donc, avant de penser à Paris, il va falloir qu'on batte Lens et...
Bah, va falloir voir comment Marseille va réagir.
Mais tu disais que la Coupe de la Ligue intéressait personne, mais peut-être que Doria il va jouer mercredi à Rennes en Coupe de la Ligue, donc ça sera l'occasion de regarder France 3 et donc de voir la Coupe de la Ligue pour voir les nouveaux joueurs de Marseille.
Je sais pas du tout quelle va être la philosophie de Bielsa.
Il va faire tourner quand même.
Est-ce qu'il va faire tourner ou est-ce qu'il
va être cramé sinon dans 3 semaines?
Je pense, ouais.
Je sais pas du
tout. Ouais, mais c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr peut-être qu'il va encore regarder la même équipe.
Allez, on finit.
Sa glacière, qu'adviendra-t-il de sa glacière?
Mais peut-être qu'il a de l'arnica dedans, comme pour Patrick. allez, on finit avec cet incroyable quintuplé d'Eduardo, 5 buts en un match. Le Brésilien a réalisé un exploit que la Ligue 1 attendait depuis 30 ans. 30 ans pour attendre un joueur qui marque 5 buts dans un match, bon, c'est peu commun. Du coup, 7-2, c'est Nice à Guingamp.
Ouais, à Guingamp. Ouais.
Alors, un mot peut-être sur Eduardo, prêté par FC Porto, Patrick?
Personne ne le connaît, personne ne le connaissait.
Milieu de terrain en plus. Hein.
Voilà, en plus, moi je me souviens avoir vu quelques articles de début de saison. Voilà, on disait, mais qu'est-ce qu'ils sont allés prendre ce joueur? Voilà, et puis bon, tout le monde se disait, un joueur de plage, un Brésilien de plus qui sert à rien. Et puis bon, il a commencé à intégrer l'équipe, il a marqué un coup franc, je sais plus contre qui, et puis là, il en remet un, et puis il est 4 buts derrière, bon, voilà.
Un coup franc juninesque.
Ouais, exactement, bon, voilà, après, il faut dire que Guingamp, ils veulent jouer la Coupe d'Europe, c'est tout à leur honneur, parce qu'il faut des points UEFA pour avoir des clubs qualifiés. Donc ils font pas l'impasse, mais bon,
ils vont pas la jouer longtemps, 9 points, 20e.
C'était un peu open bar en défense aussi, hein. Le gardien. Le gardien et des défenseurs. Les défenseurs avaient des jolies places pour assister au match.
Voilà, bon dernier du classement, Guingamp.
Ça va être compliqué. Ouais. Hein.
Ça va être compliqué. Ben, on verra ça dans la prochaine émission. Non, il sera question de Coupe de la Ligue. Ouais, on va se régaler la semaine prochaine. Restez bien à l'écoute. Sylvain Tichit, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Voilà, n'hésitez pas à appeler la radio si vous voulez les coordonnées du badminton. On le donnera entraînement. Donc on a compris amende. Oui, Luc.
Peut-être rappeler le prochain tournoi.
Ah oui. Marvejol, c'est
le prochain tournoi pour le badminton Club Mandois. Ça sera Marvejol avec 30 participants de notre club. Et après, on verra par la suite les tournois au fur et à mesure de la saison.
30 participants et le grand Patrick Biancon qui
est là. Non, je suis pas, tu
laisses une chance à tes adversaires.
Voilà, je suis pas dispo. Voilà. Il faut que je fasse reposer mes vieilles jambes.
Allez, merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve lundi prochain, toujours midi et demi, 1h30. Cette émission, bien sûr, est podcastable dès cet après-midi. Et vous pourrez la réécouter ce mercredi à 18h10. Ciao.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.